pas. La maîtresse, mademoiselle Guichard, nous a expliqué qu'on ne pouvait pas tuer le diable. J'ai fini par le comprendre. Mais j'avais toujours, comment dirais-je, le désir latent de faire quelque chose de non usuel et de réfléchir à ce qui pouvait donner une sorte de proéminence à quelqu'un ou à des gens. Il y avait une salle derrière l'église de Saint-Nom-Jésus, tout près de l'école où j'allais. On nous y menait voir des films quelquefois. Nous avons une fois vu un film sur les martyrs de Lyon. Saint-Potin, Saint-Irénée, Sainte-Blandine. Et nous avons vu reconstituer le Luc d'un homme de l'époque. Des petites rues, enfin des rues d'allées à la romaine, et puis des litières, des femmes romaines qui se promenaient en litière là-dedans, dans le Luc d'un homme. Je voyais ces femmes romaines, je me rappelle les réflexions que j'ai faites. Ce soir-là que j'ai vu ce film, je dis, on n'en parle plus de ces belles dames. Elles étaient riches. Elles étaient, à l'époque, elles étaient quelqu'un. Et aujourd'hui, 2000 ans ont passé, on n'en parle plus. On parle de Sainte Blandine, la petite esclave, dont on ne connaît même pas le nom. On l'appelle Blandine, ça veut dire la petite. Blandula, la petite. Et évidemment, j'ai vu ça, l'histoire de Sainte Blandine, j'ai vu le lion à ses pieds qui n'a pas voulu d'elle. Et puis, une autre fois, j'ai vu aussi le lion d'Androclès, qui également l'a épargné. Ça s'est blessé. Et j'ai fait une réflexion, je dis, pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de ces femmes romaines? Et pourquoi parle-t-on de la chrétienne, insignifiante à l'époque? Eh bien, c'est parce que le christianisme a gagné, tiens. Si le christianisme n'avait pas gagné la partie, si nous avions encore la vieille religion romaine, ça ne serait pas comme ça. Pour durer impersonnellement, il faut s'identifier à quelque chose de grand, de plus grand que soi, qui dure. Ben, quand je serai grande, je ferai ça. Je ne savais encore pas à quoi j'allais m'identifier. Et puis, quand j'avais 12 ans à peu près, j'avais 11 ans et demi, j'ai passé mon certificat d'études. Comme l'école libre était chère, mes parents m'ont mis à l'Alle laïque, rue Tronchet 92, pour un an, au cours supérieur, pour un an. Et après, j'étais au lycée moderne de la place Guichard. L'école laïque m'a impressionnée. M'a très mal impressionnée. C'est pas que je croyais tout ce qu'on me disait au catéchisme, ni que j'avais une grande vénération pour le christianisme, mais en particulier le catholicisme. Mais l'atmosphère était tout de même meilleure. On ne nous parlait pas de la même façon de la Révolution française. La façon dont nous essayions de nous bourrer le crâne dans cette école laïque sur la Révolution française, qui était quelque chose de très bien. Les chants qu'on chantait dans l'escalier. Attendez voir. Au ciel radieux tu t'élances, gloire à toi, sainte liberté, étends tes deux ailes immenses sur la France et l'humanité. Pour toi combattir nos frères, là d'obéir comme un troupeau, et tu guidas leur fier drapeau, etc. Je ne la chantais pas. Je savais que ça avait à faire avec la guillotine, avec la terreur, avec toute espèce de choses qui me dégoûtaient dans la Révolution française. Je n'aimais pas la Révolution française. Je ne savais pas encore dans ce temps-là qui l'avait préparée et comment elle avait été faite. Mais enfin, instinctivement, je n'aimais pas. Si on m'avait demandé ce que j'étais, ben j'aurais été royaliste dans ce temps-là. Jamais J'aimais les rois de France en général. J'aimais le roi de Grèce, Constantin. J'aimais l'idée de monarchie, l'idée d'un homme, un seul homme qui commande. Monarque, un seul commandant. J'aimais ça. Et ça me rendait impopulaire avec toute l'école. C'était encore la guerre. Elle n'était pas finie. Il y avait des réfugiés de diverses autres parties de la France qui venaient. Il y en avait une en particulier qui venait de Paris et qui était une drôle de fille. Pas belle du tout, mais très portée sur les garçons. Elle s'appelait Yvonne Kran, K-H-A-N. Elle était juive. Elle savait très bien prendre la maîtresse de l'école laïque, Madame Dainville, Claire Dainville. Elle lui récitait des poèmes patriotiques français avec un enthousiasme extraordinaire. Alors il a voulu la grève altière et rude, où la Manche l'hiver hurle sur les galets, mais il a rencontré les taxis de Dixmude, il n'est pas entré dans Calais. Et puis elle a voulu, enfin, contre le Kaiser. Eh bien, moi, à cause du fait que les Alliés avaient forcé, non pas sous menace, mais sous, effectivement, la pression du blocus pendant 10 mois. Et un blocus en Grèce, ça veut dire la famine, parce que la Grèce ne produit rien, sauf des olives, de l'huile, des raisins de Corinthe, du vin, et puis du tabac. Alors, c'est tragique. Et puis, le bombardement d'Athènes par la flotte anglaise, la flotte combinée anglaise et française. Et puis, le débarquement à Salonique en 1915. Alors qu'en 1914, on avait partout, même dans mon école, blâmé les Allemands. Ils avaient violé la pauvre petite Belgique. Et un an après, les Alliés violent la pauvre petite Grèce. Ils trouvent ça très bien. J'avais pris les Alliés en grippe. Dès 1915. Et je les détestais. Et si il y avait quelque chose que j'aimais en France, pas dans les Alliés, mais en France, c'était la vieille France. La France des rois. Et tout le monde le savait, parce que je ne me cachais pas. Un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Mademoiselle Yvonne Kahn, plus âgée que nous, elle avait au moins 14 ans. Elle nous racontait, elle nous avait réunis, toute la classe, c'était à la récréation. Et puis c'était pas la première fois, c'était au moins la 5e fois. J'en prendrai un petit bout si vous voulez. Prenez le reste. Merci. Il nous racontait des histoires de ses expériences avec les garçons. Ça ne m'intéressait pas, parce que je n'y comprenais rien. Et un jour, ça durait depuis déjà plusieurs jours, un jour la maîtresse l'a appelée. Elle lui dit, elles étaient deux, Yvonne Kahn et une autre. Pas l'autre juive qui était dans la classe, nous en avions une autre qui s'appelait Esther Rosenstein, mais celle-là ne m'a jamais rien fait. Je ne lui parlais pas, mais enfin, elle ne m'intéressait pas, elle ne s'intéressait pas à moi. Alors elle demande à Yvonne Kahn, qu'est-ce que vous faites donc, toutes réunies, vous entendez quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ces conciliabules que vous avez? Elle n'a fait ni une ni deux. Elle a dit, c'est Maximine, c'est-à-dire c'est moi, qui nous raconte des histoires du temps des rois. Il nous dit, comme la République est une chose horrible en France, comme la Révolution française est à blâmer, elle nous fait de la propagande. Ce n'était pas vrai. Elle revient. Elle me dit, Maximine, nous avons dit ci et ça et ça. Nous ne pouvions pas dire la vérité. Je ne pouvais pas lui dire que je leur racontais des histoires de garçons, des histoires scabreuses. Nous avons dit ça. Je dis, mais c'est pas vrai. mais ça fait rien. Tu l'accepteras. On va te gronder, mais ça fait rien. Je dis, comment ça fait rien? Moi, ça me fait quelque chose de te gronder. Je veux pas de ça. Eh bien, si tu n'acceptes pas, tu trouveras des taches dans tes cahiers, des pages de tes livres qui manqueront, des pages de cirée dans tes cahiers. Nous sommes 50, tu es une seule. Choisis. Je n'ai rien dit, je me suis laissé gronder. Soi-disant que je faisais de la propagande anti-républicaine en classe à l'âge de 12 ans. On a même dit la chose à mes parents. À mes parents, j'ai dit la vérité. Ils l'ont cru, mais il m'a dit, tu ne t'es pas défendu, pourquoi tu ne t'es pas défendu? J'ai raconté l'épisode à Madame Dainville 10 ans après, quand j'étais étudiante. Et elle m'a dit, pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai dit, Madame Dainville, vous n'avez jamais été dans une classe de 50 élèves où il y en a 50 contre une. Vous ne savez pas ce que c'est. Elle dit, oui, vous avez raison. Enfin, ça m'a montré un peu ce que c'était qu'une juive quand elle avait l'envie d'être méchante. Et ça, je ne pouvais pas l'oublier. C'est pas que ça ait changé quoi que ce soit à mes idées, ou que ça les ait augmentées, ou que ça les ait, comment dirais-je, que ça me soit... Ce n'est pas elle qui m'a fait rendu antisémite. Je ne suis d'abord pas antisémite. Je ne suis pas contre les sémites de Syrie, ni d'Assyrie, ni de Babylone, ni d'Arabie. La race sémitique, c'est une race comme une autre. Je suis simplement contre ce peuple de la Bible qui n'est pas comme les autres, qui veut faire croire qu'il est le choisi, etc. Et les autres sont rien du tout. C'est ça. Et ce n'est pas, j'ai pas eu besoin d'Yvonne Kahn pour trouver ça. C'est véritablement la Bible, la Sainte Bible, qui m'a rendu anti-juive. En attendant que je lise autre chose. Les temps ont passé, je suis allée au lycée moderne de la place Guichard. J'ai passé le brevet supérieur en 3 parties. J'ai toujours été la première de ma classe pendant toutes les années que je suis restée dans ce lycée moderne. J'aurais préféré être du lycée Edgar Quinet, faire du grec et du latin. Malheureusement, j'ai fait un peu de latin tout seul parce que je voulais en faire. En fait, grec ancien, j'ai fait du grec du 4e siècle, le grec d'église. Car j'allais à l'église orthodoxe, il y avait une église orthodoxe à ce temps-là, il commençait à en avoir une, à Lyon, une salle dans laquelle les Grecs se réunissaient. Et j'allais là, non pas que j'y croyais au dogme, mais j'allais là, comme je disais dans ce temps-là, par fidélité envers Byzance. Parce que Byzance, c'était 1000 ans d'histoire de culture grecque, de langue et de culture grecque. Ma tante voulait, elle, que j'aille faire ma confirmation. Il n'y a pas de confirmation dans l'église grecque. Mais il y en a une dans l'église luthérienne, l'église protestante. Ma mère avait une amie avec des filles protestantes. Alors ma tante m'a dit, il faut que tu ailles avec elle à l'école du dimanche. Je suis allée à l'école du dimanche, rue Fénelon. Donc l'école du dimanche me plaisait assez. On parlait de l'Antiquité, on parlait de l'Ancien Testament, des Perses, des Assyriens, etc. Ça me plaisait. Et puis, j'aurais pu ne pas faire ma confirmation. Mon père m'aurait soutenu. On ne la faisait pas dans l'église grecque. Ma mère m'aurait dit, si tu n'y crois vraiment pas, ne la fais pas. Mais j'avais peur de ma tante. J'avais peur de toute la famille de ma mère. Ma tante m'aurait laissé tomber, ne m'aurait plus parlé. Elle était très entière. J'étais faible. Je l'ai faite quand même. J'avais peut-être 14 ans. Et je me rappelle toujours le sermon de la confirmation. J'étais habillée en blanc. devant l'hôtel Ruffinland. Le prêtre, qui s'appelait Monsieur Savoie, a fait un discours sur un verset de l'Ancien Testament, dans lequel, je crois que c'est le prophète Élisée, qui dit aux Juifs, « Vous avez à choisir maintenant entre Baal et Yahvé, et l'Éternel. » Ma réflexion automatique dans ma tête, quand il a lu ce verset de l'Ancien Testament, pas grand chose à choisir, sont aussi mauvais l'un que l'autre. J'ai pensé aux cérémonies de Baal qui n'étaient pas toujours belles, mais celles de Yahvé ne l'étaient guère davantage. Et puis en tout cas, massacrer les prêtres de Baal parce qu'ils étaient prêtres de Baal, je trouvais ça un peu excessif. Et puis ensuite se plaindre des années plus tard qu'on massacre des juifs parce qu'ils sont juifs, alors que c'est pas vrai. Enfin, ça a passé. De plus en plus, je manquerai dans toute mon adolescence dans le fait que je me sentais païenne. J'aurais me rattaché à la religion de l'ancienne Grèce et de l'ancienne Rome et du nord germanique. L'Europe païenne, l'Europe d'avant le christianisme. Et ça, c'était vraiment ma véritable foi. Et j'ai trouvé, on dirait que les dieux mettaient à ma disposition, des livres qui me confirmaient là-dedans. Par exemple, mon père connaissait un monsieur qui s'appelait Monsieur Duclou, qui était le directeur de la bibliothèque municipale de Saint-Jean. Un jour, il m'y a mené et M. Duclos m'a donné les poèmes antiques et les poèmes barbares de Le Comte de Lys. Et j'ai lu dans ces poèmes barbares le discours d'un barde qui ne voulait pas se convertir et qui parlait aux âmes des fines, des anciens Irlandais, qui étaient restés fidèles à leur Dieu. Viens, disent-ils, viens, disent les chefs morts, viens, disent-ils aux bardes, la hache a mutilé les bois, l'esclave rampe et prie où chantaient les épées, et tous les dieux d'Erin sont partis à la fois. Ça m'a fait pleurer. Je me vois toujours en train de tenir ce livre. C'était même avant que j'aille au lycée de Place Guichard. Ça devait être en 1916, à peu près 15 ou 16. C'était le temps où j'étais même pas encore à l'école laïque. Je sanglotais dans le tram numéro 7. Numéro 26 plutôt. C'était le 26 qui s'arrêtait à Saint-Jean. Qui était Saint-Jean-Breteau. J'entrais chez moi. Je sanglotais parce que les dieux d'Erin étaient morts et que je ne pouvais pas les raviver. Et puis ensuite, ça a été Hypatie, le poème d'Hypatie, que j'aimais tant, Hypatie d'Alexandrie, dont j'ai raconté l'histoire déjà ici. Et je manquerai de plus en plus en tant qu'admiratrice d'Alexandre le Grand, admiratrice de l'empereur Julien, admiratrice d'Hypatie, admiratrice de Wittukind, l'adversaire de Charlemagne au nom de la religion germanique. Mais me tenait encore attachée à l'Église orthodoxe la tradition de 1000 ans de ce que j'appelais culture grecque, culture byzantine en langue grecque. Et je ne voulais pas me dresser contre le christianisme avant d'avoir vu son berceau, avant d'avoir fait un voyage en Palestine. Et ça, je l'ai fait en 1929. Après ma licence, je l'avais passée déjà, j'avais ma maîtrise, ce qu'on appelle aujourd'hui la maîtrise, ce qu'on appelle dans ce temps-là la diplôme d'études supérieures de philosophie. J'avais eu une très bonne licence, des mentions assez bien et une mention très bien, obtenue le 19 juin 1925. J'avais 19 ans et demi. Avec un texte de composition, l'idée de progrès. L'idée de progrès, qu'à 19 ans et demi, j'ai complètement démoli et que le texte que j'ai écrit, de 5 ou 6 pages, mon texte d'examen, je pourrais le signer aujourd'hui. J'ai dit, il n'y a pas de progrès, sauf du progrès technique. Les anciens n'avaient pas de ventilateur électrique, nous en avons. C'est le progrès. Les anciens n'avaient pas de canon, nous en avons depuis le 14e siècle, du progrès, etc. Mais progrès artistique, il n'y en a pas. Une peinture moderne est dépassée, et de beaucoup, par certaines peintures préhistoriques au moins. Progrès moral, il en existe encore moins. Les anciens avaient leurs tortures, nous avons les nôtres. Les anciens, en somme, étaient supérieurs à nous, dans l'ensemble, au point de vue moral et au point de vue artistique, ce qui m'intéressait le plus. J'ai parlé de cet essai pour lequel j'ai eu 18, et c'est pour ça que j'ai passé mon certificat de morale et sociologie avec mention très bien en 1925. J'ai eu 18 à l'oral aussi. À l'oral, j'ai eu la question innovation et tradition. Ça me plaisait. J'ai parlé là-dessus avec enthousiasme. On m'a dit, beaucoup plus tard, si vous aviez présenté les mêmes travaux aujourd'hui, vous auriez probablement eu 2. Au baccalauréat de l'époque, j'ai eu 16 avant ma licence. J'ai choisi au sujet du baccalauréat la notion d'objet, 1 sur 3 questions, et j'ai eu 16 en philosophie. Peut-être pourrais-je avoir un 16 aujourd'hui pour une question pareille. Mais pour une question discutée comme le progrès, il paraît que j'aurais eu 2. Ou peut-être 5, enfin une note non éliminatoire, par pitié. En tout cas, en 1929, j'étais en Grèce. Je suis partie en Grèce en 1900, au début de 28, pour y commencer ma seconde thèse de doctorat. J'avais choisi comme sujet la vie et l'œuvre de Théophile Kairis, un penseur grec du 19e et 18e siècle, né en 1784, et mort en 1853, qui avait donc vécu du temps de la guerre d'indépendance, et qui, tout comme Socrate dans l'Antiquité, avait été condamné à mourir en prison. Il n'avait pas été tué, mais enfin, il est mort en prison quand même, parce qu'il ne croyait pas à l'Église orthodoxe, à l'Église nationale. Et j'ai fait le rapprochement avec Socrate. Ma thèse principale était une thèse logique sur la simplicité mathématique. Et j'avais l'intention, avant de l'écrire, car je l'ai écrite que plus tard, de faire une licence de sciences. Parce que je me dis, on ne peut pas comprendre la simplicité mathématique si on n'a pas, au moins, suivi les cours de mathématiques générales à la faculté. C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi les cours de mathématiques générales et j'ai fait une licence de physique et de chimie plus tard, en 1930-31. Mais entre-temps, en 1929, tandis que j'étais en Grèce, Je me suis jointe à un pèlerinage en Palestine qui devait durer 40 jours et qui devait passer par Rhodes, revenir par Chypre, J'ai pris naturellement un billet de troisième classe, pas cher, je crois que ça coûtait 100 francs à peu près, pour les 40 jours. Avec, on me l'a mangé ce qu'on voulait. Moi, j'ai vécu pratiquement en Palestine d'olives et d'oranges. Et de pain, naturellement. Nous logions dans un monastère, monastère de Saint-Dimitri, au-dessus de la cour de l'église du Saint-Sépulcre, qu'on voyait très bien, et tout près d'une mosquée, de laquelle on voyait le minaret, de laquelle on entendait le muezzin chanter le « la ilaha la ilaha la » le matin, « Mohammed Rasulillah ». Je trouvais ça beau. Je trouvais que l'islam et le christianisme, après tout, se valaient. Tous les deux venaient de la tradition juive, et tant qu'ils n'essayaient pas de s'imposer, ça m'était égal, mais je n'aimais pas qu'ils s'imposassent. J'ai été étonnée en Palestine, ce qui m'a impressionnée, ce qui m'est resté de ce voyage, c'est les contorsions, les actes d'enthousiasme exagérés, même malsains, je dirais, de la part de la plupart de ceux qui m'accompagnaient, des autres pèlerins, en particulier des vieilles veuves. Toutes les fois qu'elle se trouvait dans un endroit célèbre par un épisode de l'Évangile. Le Christ a passé là, les voilà plat ventre par terre, les mains étendues, à baiser cette terre de Palestine, terre sainte. J'étais outré de ça. J'étais choqué. Ça m'a choqué profondément. J'ai dit fichre de fichre. Qu'est-ce que c'est que la terre sainte? Pour des Grecs, la Terre Sainte, c'est la Grèce, c'est pas la Palestine. Pour un Allemand, naturellement, c'est l'Allemagne. Pour la France, c'est en français. Pour la Française, c'est la France. La Palestine, pourquoi s'est-elle imposée comme ça dans toute l'Europe? Et j'ai pensé aux églises françaises que je connaissais, avec leurs très beaux vitraux, l'église de Chartres, Notre-Dame, les églises, les grandes églises de Paris et celle de Lyon. L'église de Saint-Nizier, par exemple, l'église de Saint-Nom-Jésus, sur une échelle plus petite, dans mon quartier des Brotteaux, avec ses scènes, ses vitraux, représentant tantôt des scènes modernes, mais des scènes naturellement attachées à l'Évangile, et très souvent des scènes de l'Ancien Testament. Et puis, j'ai pensé à toute la Bible, même le Nouveau Testament, et plein de l'Ancien, il n'est soi-disant vrai que parce que les prophètes l'ont dit d'avance, n'est-ce pas? Il a été prophétisé, et il a prophétisé, comme dit Pascal en parlant du Christ. Je dis, quelle est cette influence de la Palestine, cette influence du peuple, du tout petit peuple juif, le peuple le plus méprisé de l'Antiquité, le peuple que les Romains considéraient comme rien du tout, le peuple que les autres pensants d'Antiquité aussi considérés comme rien du tout. Pourquoi est-il devenu le roi de l'Europe, le roi spirituel de l'Europe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a choqué. Je dis, qui c'est qui va nous délivrer de cet esclavage spirituel qui dure depuis des siècles, depuis la conversion au christianisme de Constantin, depuis la conversion de Clovis, depuis toute la propagande chrétienne en pays germanique et en pays celtique. Et puis, je me suis rappelé que j'avais suivi de loin, naturellement, de France, mais j'avais quand même suivi le mouvement d'un jeune Allemand qui avait essayé de faire un putsch pour prendre le pouvoir. Le 9 novembre 1923. 23, j'avais 18 ans. Je n'étais pas en France, J'étais en Grèce le 9 novembre, le jour même du putsch. J'ai appris le putsch en Grèce, le lendemain, dans la pension de famille pour jeunes filles, où ma mère m'avait laissé parce que je voulais passer quelque temps en Grèce. Et j'avais dit, dommage qu'il n'ait pas réussi. J'aurais aimé que ce jeune chef prenne le pouvoir. Ça aurait fait une leçon pour les alliés. J'ai même traité les alliés d'un mot qui n'était pas très élégant. Alors, la dame suisse qui dirigeait le home pour jeunes filles m'avait même reproché cette vulgarité. Mais enfin, voilà. Je m'intéressais donc au mouvement, mais de loin, et je considérais Adolf Hitler comme un chef allemand pour lequel j'avais toute la sympathie. Mais ce n'était pas autre chose qu'un chef étranger. Il n'était ni grec ni français. Et tout d'un coup, là-bas en Palestine, en avril 1929, j'ai dit, mais tu n'as donc pas réfléchi? Ça t'a donc pas encore frappé? Que voilà l'homme qui, justement, voudrait délivrer toute l'Europe, non seulement toute l'Europe, toute la race aryenne, du joug spirituel des Juifs, de cette extravagante, n'est-ce pas, prétention d'un petit peuple sémitique à nous dominer, non seulement financièrement, économiquement, mais spirituellement. Je dis, mais c'est vrai. En effet, c'est vrai.